réalisation complète de deux prototypes d'une architecture très originale en état de marche et testée par le CE Adam. Donc j'ai les comptes rendus, les PV de recettes, etc. Donc des gens qui disent que ça n'a jamais marché, je voudrais bien les voir. Expérimentation en multiflow montrant le bien fondé du principe. Donc système Unix, multiprocesseur, multitâche, multi-utilisateur, compilateur Fortran vectoriel, associé au VAS2, bibliothèque mathématique très complète. Je vous dis, on a fait donc une opération dans laquelle nous avons obtenu, si vous voulez, un système au niveau de ce qui était actuellement. Commercialisé, si vous voulez, au niveau des crêpes, par exemple. Mais aussi, démonstration qu'il est possible de créer des machines très pointues avec une équipe réduite, motivée et soudée. Et ça, c'est très, très important. Maîtrise des problèmes de propagation des signaux et des horloges dans un très grand système avec câbles longs. Donc, nous avons fait du wave pipelining. Donc, ça a marché au petit poil. Le wave pipelining, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous avez un système dans lequel le temps de propagation entre un bout de la machine et l'autre est supérieur au temps de cycle de l'horloge, eh bien ce qu'il faut faire, c'est considérer que vous avez un anneau de pipeline virtuel entre un bout et l'autre. Et donc il faut tenir compte de ceci au niveau du calcul des temps. Donc nous avons été capables de construire des cartes dans lesquelles l'ensemble des timings ont été réalisés. C'est-à-dire que nous avons fait des cartes dans lesquelles nous avons travaillé en micro-wire. Le micro-wire nous a permis de travailler avec une distance entre points, qui était la distance Manhattan, c'est-à-dire delta X plus delta Y. Et donc, possibilité de connaître exactement tous les temps de propagation. Et quand nous avions besoin de rallonger un temps de propagation, eh bien le temps de propagation était rallongé par un petit bout de ligne supplémentaire. Donc,
quelle vitesse d'horloge ?
La vitesse d'horloge était théoriquement prévue à 15 nanos. Les prototypes ont fonctionné à 20 nanos parce que nous étions il y avait un truc qui répondait pas très très bien. On avait utilisé un des petits problèmes que nous avons eu. On a on a utilisé un FIFO qui avait été fait pour le CNAM dans la technologie que nous avons utilisée, mais je vais en parler tout à l'heure. Un FIFO.
C'est 50 mégas ça.
Ça fait, oui, théoriquement, c'était du 60 mégas. La plupart des trucs fonctionnaient à 60 mégas. Donc, on aurait pu tourner à 60 mégas sans aucun problème. D'accord ? Donc, maîtrise des très grandes cartes avec prise en compte de tous les temps de propagation. Machine scalaire RISC 64 bits multiprocesseur avec son système d'exploitation. Et là, on aurait pu faire un grand coup à bulle. C'était de vendre cet ensemble, machine scalaire toute simple, avec sa mémoire et avec son système d'exploitation, son compilateur. Et on avait ici quelque chose qui était bétonné. On avait un truc qui aurait pu faire une station de travail de type scientifique qui était la meilleure de ce qu'on pouvait faire à l'époque.
Claude, oui. Petit débat quand même sur les choses que tu dis. Alors c'est vrai que l'équipe elle était réduite, motivée, soudée. L'inconvénient d'avoir une équipe réduite, motivée, soudée, ça n'est certainement pas que ça fait plus de travail, au contraire, ça fait moins de travail quand il y a moins de gens sur un projet. Et là, tu nous as parlé de démarrer en 81 avec des protos en 89.
Attends, je vais te montrer. Excuse-moi. Même, non, attends, ça dépend de ce qu'on appelle démarrer. Excuse-moi, je vais te montrer les plannings après. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
Pour mettre les choses gentiment.
Je suis d'accord, mais je vais te montrer un petit peu les opérations qui ont été faites. Donc, les brevets. Nous avons des systèmes de refroidissement. Pourquoi des systèmes de refroidissement ? Parce que pour obtenir des MTBF. Digne de ce nom, eh bien, il faut être capable de garantir la température à l'intérieur d'un système. Quand vous avez un très très gros système, la température agit considérablement sur le MTBF de chacun des éléments. D'accord ? Deuxième point. Donc unité flottante avec division performante. Donc on a déposé des brevets sur des unités de division qui étaient extrêmement nouveaux. Donc unité de calcul de haute performance, système de mémoire parallèle à haute performance, système d'entrée-sortie à disque magnétique parallèle redondant. Donc c'est ce dont je vous parlais.
Vous n'avez pas envisagé de mettre sur une puce d'intégrer.
Mais si c'était prévu. C'était prévu, mais si tu veux, le problème était que nous n'avions pas les mains libres pour le faire dans la première étape.
Oui, première étape, oui.
Mais c'était prévu, c'était la suite. Mais c'était la suite.
Intéressant vers
évidemment.
1990-93.
Absolument. Donc problème rencontré. Temps très long pour obtenir le droit d'embaucher. Donc là, on nous a retenu.
Bon. C'était partout pareil.
C'est peut-être partout pareil, mais figure-toi que quand tu as des contrats, ben, il faut honorer les contrats. Deuxième. Changement par deux fois de technologie. Bull nous a pété dans les doigts au niveau de la CML. Donc, toutes les opérations de CAO, il a fallu les refaire. Troisièmement.
Il y a quelques explications là aussi quand même. On l'a démarré en 80, en 81, effectivement, ce n'était pas évident qu'il fallait choisir autre chose que du bipolaire. Mais quand on est arrivé en 84, on savait pertinemment dans le but qu'il fallait arrêter de faire du bipolaire.
Mais nous n'avions pas le moyen, si tu veux, vis-à-vis, on n'avait pas le droit.
Oui, mais ça n'empêche que le projet résultant, ça allait plus très très bien.
Jean-Jacques, le problème du bipolaire, c'est qu'il était beaucoup plus rapide que le MOS de l'époque. Le MOS de l'époque, c'était une véritable boîte.
Attends, il était rapide en porte. Le problème, c'est qu'avec des machines de cette complexité, les portes comptent pour même pas 50% de la performance. C'est les interconnexions qui comptent. Et les interconnexions, elles sont incomparablement plus fortes, enfin bien meilleures en CMOS à cause de l'intégration.
C'est pas vrai.
À 84, le croisement avait eu lieu.
Jean-Jacques, on n'avait pas la technologie.
Vous non, du tout. Il y avait eu des démonstrations faites par Anso sur les premiers DTS7 monochip. Enfin, on savait un petit peu ce que ça avait apporté. Auriga, la décision de faire Auriga, c'est 85. On avait décidé qu'à ce moment-là, c'était évident qu'un mainframe.
Où est-ce que vous fabriquiez? Où est-ce que vous fabriquiez?
Je ne sais plus.
C'était fabriqué aux États-Unis. Moi, je le sais très bien.
Mais le fait qu'on ait un problème politique ne justifie pas les mauvais choix.
On aurait pu. Ah bah si, hein, c'était pas le. On aurait...